Revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour à
Marion.
Tous. À quoi ressemblera le monde d'après ? C'est le Parisien qui pose la question en une ce matin et nous parle de ces évidences mises en lumière par la crise et qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir. Les soignants qui se battent pour sauver des vies, les caissières qui pointent avec angoisse au supermarché, les policiers qui veillent sans masque ou encore les enseignants dont les parents d'élèves ne réalisent que maintenant combien leur tâche est ardue. Tous sont en bas de l'échelle des salaires, à l'évidence, écrit le journal, c'est toute une échelle de valeurs qu'il faudra revoir. Définir le monde d'après, donc, l'intention est bonne, mais dans les faits, le monde d'après du Parisien ressemble tout de même beaucoup à celui d'avant. Hein. Que des hommes en une, que des hommes en page 2, même dans le dessin de Rançon, c'est monsieur qui analyse et madame qui acquiesce. Sur le fond, un politologue nous prédit ce que l'on entend déjà depuis un bon moment, la menace populiste, la tentation des régimes autoritaires, le climatologue Jean Jouzel rappelle l'urgence écologique, mais si on parle de l'après, dit-il, je crains malheureusement que l'on reparte comme après la crise de 2008. Alors on a tendance à penser, à l'image d'Hassan, livreur de 28 ans, que rien ne changera jamais. Pourtant, il y a tout de même des choses qui changent, et très vite, puisqu'en quelques jours, les masques sont passés de totalement inutiles à indispensables.
Et ce matin, Marion, toute la presse s'interroge donc autour de ces masques.
Oui, devons-nous tous finalement porter des masques ? Questionne sceptique le Courrier de l'Ouest. Oui, la France va se masquer, affirme le journal du dimanche, quand Libération Champagne se demande s'il y en aura pour tous, bientôt tous masqués, interroge en cœur Ouest France, l'Union ou encore la Voix du Nord, qui résume « Voilà notre nouvel ami, la Voix du Nord » ou en page 4, un jeune homme porte lui aussi un masque, mais l'a abaissé sous le menton pour afficher son sourire de rescapé. Luc Calaisien, de 23 ans, est rentré chez ses parents vendredi après 17 jours passés à l'hôpital. Pour lui, écrit le journal, les ennuis ont commencé dès janvier. Après deux passages aux urgences et un test positif au Covid-19, il est perfusé, mis sous oxygène et emmené en réanimation. « Je ne me souviens pas de tout », dit-il. « Je me demandais si je n'étais pas dans un rêve ». Il insiste sur le personnel soignant, formidable. « Même fatigué », dit-il, « ils font en sorte d'avoir le sourire et de nous remonter le moral ». Luc, dont les premiers mots prononcés en se réveillant nous ramènent à l'essentiel. J'ai dit que j'avais faim. Se nourrir, comment et avec quoi, voilà qui est devenu sans conteste le sujet qui occupe nos emplois du temps bouleversés, et pas qu'en France.
Eh oui Marion, puisque sur son site Courrier International raconte la nouvelle mode du pain fait maison, et ça se passe aux États-Unis.
Le confinement a créé l'environnement parfait pour les boulangers en herbe. Le New York Times constate un déferlement de photos de pain sur Instagram et le Wall Street Journal met un chiffre sur le phénomène. Les ventes de levure boulangère ont augmenté de 650% la semaine dernière. À la fin, il y a ceux rares qui maîtrisent le pétrin, comme Amanda, une Californienne, pour qui faire son pain est devenu une thérapie. Mais il y a surtout ceux qui échouent, comme Shona, qui a voulu tenter l'expérience en ressortant de son garde-manger une vieille farine périmée depuis des années. Comme quoi, ironise le Wall Street Journal, faire son propre pain n'est pas aussi facile que le laisse croire Instagram. Et oui, en même temps, pour leur défense, le pain n'est pas vraiment le fort des Américains. Alors que le swing, ça l'est, et c'est le magazine Society qui l'illustre en nous emmenant en Louisiane. Reportage à la Nouvelle-Orléans, l'une des villes les plus touchées des États-Unis par l'épidémie. La capitale mondiale du jazz se retrouve contrainte au silence, enfin presque, écrit le journaliste Raphaël Malquin, à un coin d'avenue du vieux quartier noir de Trémé. Chaque soir, à la même heure, résonne dans un cabaret le même swing que d'habitude. Lorsqu'il a appris que les commerces devaient fermer, Kermit Ruffins, le propriétaire, s'est exécuté sans hésiter, mais il ne lui est jamais venu à l'esprit de remiser son cuivre au placard. Alors, à l'aide d'un téléphone posé en équilibre contre un verre, le boogeyman retransmet en direct ses numéros sur les réseaux sociaux. Kermit Ruffins, un homme optimiste pour le monde d'après. La musique que je joue, dit-il à Society, c'est une manière de dire que quelque chose de bien va naître de tout ça. Ces concerts en ligne sont suivis quotidiennement par des milliers de spectateurs. Nous sommes loin les uns des autres, commente un internaute, mais tant qu'il y aura de la musique comme celle-ci, tout ira bien. Alors pour tenir, il faudrait donc une combinaison inattendue de grooves, de masques et de vrais pains, un triptyque auquel il faut ajouter le sujet auquel s'attaque cet article du Monde et qui devrait parler à tous ceux qui se retrouvent au bout de 20 jours de confinement en totale déshérence capillaire. Reportage dans la Frange Insoumise, parce que rien n'y fait, écrit Marlène Duretz. Les salons sont fermés, les coiffeurs privés de travail et les couleurs et les coupes se dégradent. Et le journal de raconter ses franges coupées soi-même, ses teintures achetées en supermarché pour espérer masquer les racines rebelles, ou encore l'option casquette plus économique. C'est que le confinement génère des détresses qu'on n'imaginait pas. Et si finalement personne ne peut vraiment prédire de quoi sera fait le monde d'après, une chose est sûre, il sera bien mieux coiffé que le monde confiné.
Effectivement, il fallait y penser. Le confinement, c'est aussi des problèmes de franges et de cheveux. Merci Marion Lagardère.